Voilà, donc bienvenue à tous sur Fréquence Mistral et tout de suite, on retrouve Pour la dignité avec Régis Coulanges, cette émission qui nous parle des droits humains. Et le rendez-vous est désormais chaque premier lundi du mois de 9h à 10h. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Voilà, alors cette émission ce matin va porter sur le droit à manifester, le Qatar, Facebook et puis la Palestine. Donc ce mois-ci, le groupe de Digne est très occupé par sa foire au livre, qui va se tenir donc le vendredi 14 octobre de 9h à 18h et le samedi 15 octobre de 9h à 13h. Voilà, donc on a besoin de mains, si jamais il y avait des gens qui voulaient faire un petit peu de gymnastique gratuite. Vous pourriez nous retrouver le mercredi 12 à 14h à la salle de l'Atrium. Nous apporterons donc notre stock de livres. Et puis le samedi 15 à partir de 13h pour remballer les invendus, ramener les invendus. Voilà. On cherche aussi un local qui serait pour stocker les livres, qui serait en rez-de-chaussée, accessible et bien sec. C'est important. Donc si jamais vous entendiez parler d'un local au rez-de-chaussée qu'on pourrait nous prêter ou nous louer, mais à petit prix. Voilà, parce que bon, pour l'instant, on a des sympathisants qui nous prêtent une cave qui est très saine, qui est très bien. Mais le problème, bon, c'est que des escaliers à descendre, des escaliers à remonter. Voilà. Bon, j'ai fait cet appel. On commence donc par le droit à manifester. Les manifestations sont un puissant levier de changement et de défense des droits humains. Mais aujourd'hui, de trop nombreux États répriment le droit de manifester. Face à cette menace croissante et sans précédent, et face à l'urgence de la situation, nous lançons une campagne mondiale. Le droit de manifester est fondamental, défendons-le. Nous en avons toutes et tous en tête des manifestations historiques qui ont fait bouger les lignes. Les mouvements contre l'apartheid en Afrique du Sud, le soulèvement des printemps arabes, les manifestations en France pour le mariage pour tous, les marches en Argentine pour le droit à l'avortement. C'est grâce au courage de celles et ceux qui s'expriment qu'un monde plus juste et plus égalitaire est possible. Mais cet outil précieux est menacé. Un large éventail de dispositifs législatifs et judiciaires, de pratiques de maintien de l'ordre, est déployé par des États partout dans le monde pour réprimer les manifestations. Parce que le problème est mondial, notre réponse doit être mondiale. C'est pour cela que nous lançons une campagne internationale. Rassemblons-nous aux quatre coins du globe, en nous mobilisant pour que tout le monde, et en particulier les personnes les plus discriminées, puissent manifester pacifiquement. Nous pouvons œuvrer pour un monde plus respectueux des droits humains. Comme pour les manifestations, nous sommes suffisamment nombreux et nombreuses pour faire la différence. Les manifestations nous l'ont prouvé, à nous maintenant de les défendre. En rejoignant la campagne Manifestez-vous, vous recevrez des informations sur l'état du droit de manifester dans le monde et en France, des propositions d'action pour le défendre, et vous pourrez suivre nos avancées et les victoires obtenues ensemble. Rejoignez-nous, manifestez-vous. Pour cela, vous pouvez aller sur le site amnesty.fr et vous inscrire à cette campagne mondiale sur le droit de manifester. On va maintenant écouter une chanson qui est en lien avec ce droit de manifester. Ça s'appelle « Le chiffon rouge ». C'est en 1977, lors d'une grande fête populaire au Havre, intitulée « Un jour d'été dans un havre de paix », qu'est née la chanson « Le chiffon rouge », interprétée par Michel Fugain, paroles de Maurice Vidalin. Elle sera adoptée par les mineurs lorrains en lutte contre les licenciements massifs dans la sidérurgie et deviendra vite célèbre dans le milieu ouvrier. Elle accompagnera, entre autres, l'élu des travailleurs de la ligne SNCF Dieppe-Newhaven, des dockers, des travailleurs de la filature et des chantiers de la Manche. Elle deviendra l'hymne des métallurgies qui se battaient en 1979 déjà contre la fermeture des hauts fourneaux et celui de leur radio libre CGT Lorraine-Cœur d'Acier. Enfin, elle reste encore d'actualité et est reprise dans certaines manifestations. Nous écoutons donc « Le chiffon rouge » par Michel Fugain.
Accroche à ton cœur ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Allons droit devant vers la lumière, en gonflant le poing et en serrant les dents. Nous réveillerons la terre entière et demain.
Voilà, donc on continue pour, sur le droit à manifester. Le décès d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs pour port du voile non conforme à la loi a embrasé la jeunesse iranienne. Des protestations se répandent dans tout le pays et sont brutalement réprimées par les autorités iraniennes. Le drame de trop. Mahsa Amini est devenue un symbole de l'oppression des femmes exercée par la République islamique d'Iran et de la brutalité du régime. Femme, vie, liberté. Voici l'un des slogans scandés dans les rues iraniennes. À cette vague de protestations largement pacifiques, les autorités répondent par la violence et la censure. On compte des dizaines de morts, dont des enfants et des centaines de blessés. Téhéran a sévèrement restreint l'accès à Internet et aux réseaux mobiles. Instagram, le réseau social le plus populaire du pays, est drastiquement limité, ainsi que WhatsApp, LinkedIn et Skype. Nous appelons la communauté internationale à prendre des mesures significatives contre la répression de plus en plus sanglante qui a lieu en ce moment en Iran. Elle avait 22 ans. Le 13 septembre 22, alors qu'elle visite Téhéran avec sa famille, la jeune kurde iranienne est arrêtée arbitrairement par la police des mœurs. Elle porte mal son voile. Elle est alors embarquée par cette unité spéciale chargée de faire respecter des règles vestimentaires strictes en vertu de la législation abusive, dégradante et discriminatoire imposant le port du voile. Des témoins expliquent que Amini a été violemment battue lors de son transfert forcé dans un centre de détention à Téhéran. Elle tombe dans le coma, est transférée à l'hôpital, elle décède 3 jours plus tard. Sa mort embrase le pays. Depuis, la colère de la jeunesse iranienne explose. Le visage d'Amini est partout, son nom est scandé dans les rues. Des gestes symboliques accompagnent la protestation. Des femmes se filment sur les réseaux sociaux en train de se couper des cheveux. D'autres vont jusqu'à brûler leur voile dans les rues. L'équipe de foot d'Iran porte un maillot noir pour cacher les couleurs du pays. Les autorités iraniennes ont annoncé des enquêtes tout en niant tout acte répréhensible. L'enquête promise qui soit confiée au ministère de l'Intérieur ne répond pas aux exigences d'indépendance. Nous appelons à la création d'un mécanisme international indépendant d'enquête pour remédier à la crise d'impunité qui sévit en Iran. Les éléments recueillis par notre organisation montrent que les forces de sécurité iraniennes ont tiré délibérément et illégalement à balles réelles sur les manifestations. Nous avons également des preuves de l'utilisation illégale par les forces de sécurité de grenades de plomb et autres billes métalliques, de gaz lacrymogène, de canons à eau et de coups de matraque pour disperser les manifestants. Dans la seule nuit du 21 septembre 22, les tirs des forces de sécurité ont fait au moins 19 morts, dont au moins 3 enfants. Des manifestants ont perdu la vue. Des centaines d'autres personnes, dont des enfants, ont subi des blessures douloureuses assimilables à des actes de torture en raison de l'utilisation illégale de munitions à leur encontre. La plupart des manifestants et passants blessés ne voulaient pas se faire soigner à l'hôpital par crainte d'être arrêtés. Rejoignez notre campagne pour défendre le droit de manifester. Le soulèvement massif des Iraniennes et des Iraniens dans les rues révèle l'ampleur de leur indignation face à l'omniprésence de la police des mœurs et face aux lois discriminatoires, comme celle du port obligatoire du voile. Il est grand temps que ces lois et les forces de sécurité qui les appliquent soient définitivement écartées de la société iranienne. En manifestant dans la rue, le peuple iranien demande des changements pour des libertés les plus fondamentales, des revendications légitimes et qui en rien ne doivent faire l'objet de répression. L'élan mondial suscité par la mort d'Amini doit être suivi de mesures concrètes de la part de la communauté internationale pour s'attaquer à la crise de l'impunité qui sévit en Iran. Car il n'existe pas d'enquête impartiale en Iran. Nous sommes entretenus avec le père d'un jeune homme de 21 ans tué par les forces de sécurité iraniennes. Les gens attendent des Nations Unies qu'elles nous défendent, nous et les manifestants. Moi aussi je peux condamner les autorités iraniennes. Le monde entier peut les condamner. Mais à quoi servent ces condamnations ? C'est pour cette raison que les États membres de l'ONU ne doivent pas se contenter de simples déclarations. Ils doivent aller plus loin pour entendre les appels à la justice des victimes et pour mettre en place de toute urgence un mécanisme d'enquête indépendant des Nations Unies. Les forces de sécurité iraniennes continueront de tuer ou blesser des manifestants si elles ne sont pas tenues de rendre des comptes. Faute de possibilité d'établir des responsabilités de manière indépendante au niveau national, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a le devoir d'envoyer un message fort aux autorités iraniennes. Les responsables de crimes relevant du droit international ne resteront pas impunis. C'est la directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord d'Amnesty International qui nous le dit. La mort d'Amini est un drame qui doit mobiliser la communauté internationale. Nous appelons à la création d'un mécanisme international indépendant d'enquête. Nous sommes aux côtés de sa famille, soutenons la mobilisation de la jeunesse iranienne et saluons le courage de ces femmes qui se battent pour leur liberté. Les Iraniennes et les Iraniens ont le droit de manifester, d'exprimer leur opinion, d'exiger des changements. Manifester est un droit fondamental et nous serons à leur côté pour le protéger. Nous écoutons maintenant Soulkin qui chante Liberté avec un orchestre symphonique.
Liberté, c'est tout ce qui nous reste. Si le scénario se répète, on sera acteur de la paix. S'il faut, vos discours sont si faux. Ou est-ce si faux qu'on a fini par s'y faire? Et c'est fini, le verre est plein. En bas écrit, entends-tu le roi? Excusez-moi d'exister, excuse mes sentiments. Et si je dis que je suis heureux avec toi, je mens. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans ton cœur. La liberté, la liberté, la liberté, nous, ça nous fait pas peur. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il y a plus belle que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rongent. C'est bon, on venait, voilà. Oui, il y a plus belle là-bas qu'il n'y a que le peuple. Che Guevara, ma taupe, emmenez-moi là-bas. J'écris ça un soir pour un nouveau matin. Oui, j'écris pour y croire. L'avenir est incertain. Moi j'écris car nous sommes. Nous sommes dans la main. Moi j'écris car nous sommes. La génération dorée. La liberté, la liberté, la liberté, c'est la mort dans ton cœur. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur.
Merci beaucoup à tout l'orchestre. Maestro, merci beaucoup.
Voilà, on va parler maintenant du Qatar, un autre sujet d'actualité. Voilà, donc vous êtes tous au courant des problèmes des droits humains liés à la construction des stades, hein, où des milliers de personnes sont décédées, hein, à cause des conditions déplorables, et notamment de la chaleur. Hein, donc il y a eu beaucoup de crises cardiaques parce qu'on fait travailler les gens sous des chaleurs terribles pendant de longues, longues heures. Voilà, alors le 19 mai 2022, nous avons publié une lettre ouverte adressée à l'équipe de France de football pour les encourager à s'exprimer publiquement en faveur des travailleurs migrants au Qatar. Notre demande est restée lettre morte. On a relancé en septembre et enfin, la Fédération française de football répond à notre lettre. Après des années d'interpellation, notre dernière lettre au bleu a fait sortir la Fédération française de football de son silence. La FFF a publié un communiqué pour enfin parler des droits humains au Qatar. Une déclaration plus qu'attendue. Elle a déclaré exercer son devoir de vigilance envers les prestataires des services avec lesquels elle sera en lien au Qatar, dans les hôtels, les restaurants, les transports. Nous nous réjouissons de cet état de fait et nous attendons qu'elle rende publique ses actions. Nous y veillerons. Elle a affirmé travailler avec les autres fédérations nationales pour la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les travailleurs migrants exploités au Qatar. Cette demande, nous la martelons depuis des mois. Nous veillerons à sa mise en œuvre effective. Pour conclure, nous espérons fortement que la déclaration de la FFF ne soit pas des paroles en l'air. Nous voulons des engagements clairs et des actions fermes pour contribuer à faire respecter les droits humains au Qatar. D'autres équipes l'ont fait. Pour ce faire, nous serons ravis de l'épauler. Voilà, il y a en ligne une pétition que vous pouvez signer. Le titre de la pétition, c'est « La Fédération française de football doit ramener la coupe à la raison ». Voilà, vous allez sur le site amnesty.fr et vous pouvez rajouter votre nom aux milliers de signatures, aux milliers de personnes qui l'ont déjà signé. On va maintenant écouter une chanson de HK, On lâche rien, qui est toujours en lien avec les manifestations et le droit de manifester.
Ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeur ouvrier, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, y'a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, y'a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien.
Chanson d'actualité, s'il en est. Je vais maintenant vous parler de Facebook. En effet, Facebook a contribué au nettoyage ethnique des Rohingyas. Le système algorithmique de Facebook a promu la haine contre les Rohingyas et a contribué ainsi aux atrocités commises par l'armée du Myanmar. Voici notre enquête. Meta, qui est propriétaire de Facebook, le savait. Meta n'a rien fait. Notre rapport The Social Atrocity démontre la responsabilité du géant américain dans les atrocités perpétrées contre le peuple Rohingya à partir de 2017 en Birmanie, hein, puisque le Myanmar, c'est le nom qu'a donné l'armée à la Birmanie. Le petit rappel historique, le 25 août 2017, plus de 700 000 personnes fuyaient le Myanmar pour le Bangladesh pour échapper aux atrocités commises par les forces armées du Myanmar. Victimes d'une campagne de nettoyage ethnique, des milliers de Rohingyas ont été tués, torturés, des femmes violées. Avant ces atrocités, les algorithmes de Facebook ont favorisé de manière proactive la diffusion de messages d'appel à la haine et à la violence contre les Rohingyas. La déshumanisation de cette communauté musulmane s'est normalisée dans tout le pays. Conséquence, la haine virtuelle a contribué à la perpétration des violences dans la vie réelle. Notre enquête vient dénoncer le modèle économique de Facebook basé sur la surveillance et le profit à tout prix, au point de mettre en danger toute une communauté. Meta doit verser des réparations aux Rohingyas et nous les soutenons dans leur demande de justice. Sawedola, activiste et réfugié Rohingya de 21 ans, a survécu aux atrocités de 2017 contre sa communauté. Téléphone connecté, son visage s'affiche à l'écran. Il s'adresse à nous depuis le camp de Cox's Bazar, le plus grand camp de réfugiés au monde. Bonjour du Bangladesh. Je vais vous parler de mon histoire et de mon peuple, victime d'un génocide commis par l'armée du Myanmar, mais auquel Facebook a largement contribué. Notre enquête s'appuie sur l'analyse de nouveaux documents provenant des Facebook Papers, documents internes rendus publics par la lanceuse d'alerte France Hogan. Nous avons mené des entretiens avec d'anciens membres du personnel de Facebook, avec des victimes Rohingyas ainsi qu'avec des experts de la société civile, militants des droits du numérique, universitaires et avocats. Cette enquête reprend l'ensemble de nos recherches sur la campagne de nettoyage ethnique des Rohingyas. Nous déclarons ouvertement et catégoriquement que notre pays n'a pas de race Rohingya. Ce message a été publié sur Facebook par le général en chef de l'armée du Myanmar, Minh Aung Hlaing. À ces messages du plus haut niveau de l'armée, s'ajoutent des centaines de messages de haine. Les musulmans sont des chiens qui doivent être abattus, des messages d'incitation à la violence, ne le laissez pas vivre, éliminez totalement sa race, le temps presse. Voici le type de messages qui circulaient au Myanmar, pays où Facebook et Internet, car la plateforme américaine y est omniprésente, est perçue par la population comme une source d'information fiable. Pendant que l'armée du Myanmar commettait des crimes contre l'humanité et contre les Rohingyas, Facebook tirait profit de la caisse de résonance créée par ses algorithmes, conduisant à une hausse vertigineuse du sentiment de haine. Mais comment ces messages ont-ils pu échapper à la modération de Facebook ? Pire encore, être favorisés sur la plateforme ? La réponse est dans ses algorithmes. Les contenus les plus commentés, partagés, occupent une place privilégiée dans le fil d'actualité de Facebook. L'algorithme identifie le post comme suscitant de l'engagement et promeut sa diffusion et celle de contenus similaires. Problème, ces publications qui font réagir peuvent promouvoir des messages de haine. Ces systèmes donnent en réalité la priorité aux contenus les plus incendiaires, car plus susceptibles de maximiser l'engagement. Les effets sont dévastateurs. Facebook a la capacité de modérer uniquement 2% des discours de haine qui circulent sur la plateforme, qui rassemble aujourd'hui presque 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. La modération peut réduire les discours de haine à une moindre échelle, mais ne peut pas les contrôler. Elle ne maîtrise pas l'amplification des contenus haineux ou violents permis par les algorithmes. Juillet 2014, Mandalay, la deuxième plus grande ville du Myanmar. Une flambée de violence éclate entre des groupes bouddhistes et des groupes musulmans. Bilan humain, 2 morts, 14 blessés, plus de 300 personnes arrêtées. Le déclencheur de ces émeutes, un post Facebook qui affirmait, à tort, que des hommes musulmans avaient violé une jeune fille bouddhiste. Si ce post Facebook a été aussi viral, au point de déclencher des émeutes, c'est parce que le système algorithmique l'a identifié comme positif, au vu du nombre de commentaires et de partages. Cet exemple montre ce à quoi ont été confrontés les Rohingyas. Les messages de haine en ligne contre cette communauté ont contribué à normaliser les violences et à les encourager dans le monde réel. Meta était tout à fait au courant des terribles conséquences que ces algorithmes pouvaient engendrer dans le monde réel. Pourtant, elle n'a rien fait. Notre enquête montre que l'entreprise américaine s'est abstenue, à plusieurs reprises, d'exercer la diligence requise en matière des droits humains pour ses opérations au Myanmar. Meta voudrait nous faire croire que la plateforme est neutre. C'est faux. En 2022, des jeunes militants Rohingyas du camp de Cox's Bazar au Bangladesh ont engagé contre Meta une procédure devant l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. La demande de financement ne représente que 0,002% des bénéfices engrangés par Meta en 2021, qui se sont élevés à 46,7 milliards de dollars. Ils souhaitent obtenir de l'entreprise des réparations via le financement à hauteur d'$1 million, un projet d'enseignement dans le camp de réfugiés. Demande rejetée par Meta, qui a avancé le motif suivant, Facebook ne participe pas directement à des activités philanthropiques. Cette réponse montre la conception erronée que l'entreprise a de ses responsabilités en matière des droits humains. Petit à petit, avec l'aide d'experts, le groupe de réfugiés Rohingyas a engagé une procédure exigeant des réparations. David contre Goliath. Meta pourrait en effet miser sur cette carte. C'est bien pour cela que nous devons nous tenir aux côtés des Rohingyas dans leur quête de justice, qui est une question de principe, mais également un besoin matériel urgent. Le combat des Rohingyas pour obtenir réparation auprès de Meta nous concerne toutes et tous, car si le fonctionnement de sa plateforme Facebook ne change pas, ce sont d'autres graves violations des droits humains qui pourront être commises. Voilà, on va maintenant écouter un chanteur qu'on entend très peu sur les radios. Un chanteur suisse, Michel Buller, qui chante l'espoir.
Bien que je sois pas du genre chochotte, à m'effrayer comme un moineau, à peine il vente, à peine il flotte, du genre à faire mon numéro d'inquiet, de voyante extra-lucide, plantée devant sa boule de cristal. Je vois les ténèbres, le vide, aïe, tout s'écroule, tout va mal. J'avoue que par ces temps exaltants, ce début de millénaire embrumé, je serais, disons, pas franchement d'un optimisme forcené. Bêtement vu les demains qui se préparent, et le pauvre monde comme il va. Oui, mais voilà que j'ai ces bizarres, comme scellé tout au fond de moi. L'espoir. L'homme est souvent pire qu'une ordure, il l'a prouvé abondamment. Cette qualité-là, c'est sûr, défie les siècles, nargue les ans. Et c'est pas le progrès, pas la bourse, tout ce qu'illumine nos aujourd'hui, qui va venir freiner dans sa course l'universelle connerie. Allez demander rien que pour voir à Jenin ou en Haïti, comment va le vent de l'histoire, aller faire un tour à Grozny, ouais, c'est l'horreur et le foutoir, la terre qui saigne un peu partout. Mais j'ai beau le voir et le savoir, je garde envers et contre tout l'espoir. Et pas besoin d'aller à Perpète pour frissonner, monter les tours. Suffit de regarder sous nos fenêtres notre pays débordant d'amour, où les riches sur leur tas d'or se marrent et gouvernent en sous-main, où les pauvres travailleront plus fort et plus longtemps pour gagner moins, où le bonheur c'est chacun pour soi quand il est parmi à bien plus tard. Franchement, pour en arriver là, faut être nul ou le vouloir, où dans les salons du profit flotte une certaine odeur de merde, où tout est fait pour qu'on l'oublie, où tout est fait pour qu'on le perde. L'espoir. L'espoir d'abord, c'est dire non à ceux devant qui l'on s'incline. C'est toujours relever le front quand les autres courbent l'échine. L'espoir, c'est prendre la parole sans demander la permission. Et c'est danser la carmagnole sous les balcons du roi Pognon. C'est cracher au nez des crétins ceux qui prétendent inéluctable, le ventre tordu par la faim. C'est cogner du poing sur la table. C'est montrer son cul aux sinistres qui possèdent les continents. C'est dire leur fait à leurs ministres, qu'ils soient larbins ou présidents. L'espoir, c'est le respect toujours de tout ce qui palpite et vit. Ça vient de loin des anciens jours, de la mine et du pain rassis. L'espoir, c'est l'évidence belle que l'on est là mille et cent mille, sans peur aucune, debout rebelle, et que ça n'est pas inutile. L'espoir, c'est plus fort que la mort, la fleur qui perce le goudron, le soleil qui se lèvera encore sur les fûts rouillés des canons. C'est cette flamme qui vacille, ce feu que je tiens dans ma main, fragile et fort comme ma vie, c'est tout ce qui me fait humain. L'espoir.
Voilà, on va parler maintenant d'un couple franco-palestinien qui fait face au harcèlement d'Israël. Depuis mars 2022, Salah Hamouri, avocat et défenseur des droits franco-palestiniens, est en détention administrative sans charge ni procès. Ce n'est pas la première fois que Salah Hamouri est détenu arbitrairement. Son épouse, Elsa Lefort, nous raconte comment et pourquoi il a déjà été arrêté 6 fois et a passé plus de 9 ans de prison dans les prisons israéliennes sans aucune preuve contre lui. Nous l'écoutons.
Moi, je m'appelle Salah Hamouri, franco-palestinien. 33 ans, j'ai passé presque 9 ans dans les prisons israéliennes.
Salah Hamouri, prisonnier en Israël depuis le 23 août dernier. On lui reproche d'appartenir à une organisation interdite dans ce pays. Sa famille, qui vit en région parisienne, dénonce une arrestation arbitraire.
C'est vrai qu'au quotidien, c'est difficile. Bien sûr que c'est pas ce que j'aurais souhaité pour mes enfants, mais je veux qu'ils sachent que leur père, il s'est battu. Salah Hamouri est un avocat, il est franco-palestinien, sa maman est française et son papa est palestinien. Il est défenseur des droits humains, il travaille pour une ONG qui s'appelle Ad-Damir, qui défend les prisonniers politiques palestiniens pour faire connaître leurs conditions de détention, faire connaître leurs souffrances, qu'elles soient physiques, psychologiques. Et enfin, il est attaché à la libération de son peuple. Et il est lui-même prisonnier politique palestinien, actuellement en détention administrative sans charge ni jugement. Ce n'est pas la première fois qu'il est détenu. Il a passé plus de 9 ans derrière les barreaux depuis qu'il a 16 ans. La première fois que Salah a eu, on va dire, affaire aux autorités israéliennes, c'était pendant la seconde intifada. Lui, il était un jeune, il participait aux manifestations qui était organisé. Il a reçu une balle dans la jambe, qu'il a toujours d'ailleurs dans la jambe. Ensuite, alors qu'il était encore étudiant, il avait été arrêté et accusé d'avoir distribué des tracts. Donc il avait été mis en détention plusieurs mois pour ça. Et une nouvelle fois, toujours au cours de ses études, il avait été arrêté, mis en détention administrative, donc quelques mois, sans charge ni jugement. Donc il n'y avait pas de motif à son incarcération. Eh bien, en mars 2005, au moment où il était en voiture, il passait un checkpoint. Et là, il a été de nouveau arrêté. Et cette fois-ci, il a été inculpé. Les autorités israéliennes lui reprochaient d'avoir eu l'intention d'organiser l'assassinat d'un homme politique d'extrême droite israélien suite à des dénonciations qui ont été faites lors d'interrogatoires violents. Et jamais au tribunal, personne ne s'est présenté pour redire ce qu'ils avaient avoué lors de leurs interrogatoires violents. Lui a toujours nié ces faits, aucune preuve n'a jamais été fournie. À cette époque-là, Salah, il a plaidé coupable. C'est quelque chose qu'en France, on peut avoir du mal à comprendre parce qu'on n'a pas ce système. Le plaidé coupable en Palestine est utilisé pour faire un marchandage de peine, en fait. Et en l'occurrence, là, c'était s'il plaidait coupable, il était incarcéré 7 ans, et s'il plaidait non coupable, il était incarcéré le double. Le choix, il est vite fait, d'autant plus que c'est 99,6% des peines requises par le procureur contre des Palestiniens sont appliquées. Voilà, à l'époque, il est condamné à 7 ans de prison. Donc sa maman, Denise, qui est française, elle contacte à l'époque Jean-Claude Lefort, qui est mon papa, et qui était président de l'association France-Palestine Solidarité, et il était aussi député. Il disait, il faut que la France défende ce citoyen qui est arbitrairement incarcéré. Et je faisais partie de ce comité de soutien. La France faisait rien. Donc elle s'est dit, tournons-nous vers la société civile pour faire grandir une mobilisation et faire connaître aussi le cas de son fils. Donc il a passé 7 ans en détention et il a été libéré le 18 décembre 2011.
La mère et la sœur de Salah ont du mal à contenir leur émotion.
On était contents de pouvoir le voir, de le toucher, parce que ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Bon, en même temps, on a eu des larmes, hein, parce que c'est normal, c'est très émotionnel aussi. Voilà.
Il décide de changer de cursus universitaire et de faire des études de droit, puisqu'il veut devenir lui-même avocat. Et Salah, il est venu en France à partir du mois d'avril pour remercier, rencontrer les personnes, les militants, mais aussi les élus. Il y a des municipalités qui l'avaient fait citoyen d'honneur.
Je suis là pour le remercier, pour faire leur connaissance, d'être avec eux. Parce que moi, je savais qu'il existait un grand soutien ici. Alors, je suis là pour connaître les gens du près, de les remercier et surtout de témoigner les ans d'emprisonnement et la souffrance des prisonniers politiques.
C'est à ce moment-là qu'on a fait connaissance. Voilà. Il y a eu 2 ans entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où, effectivement, j'ai décidé d'aller vivre à Jérusalem. On s'est mariés à Jérusalem et on habitait ensemble. Et à l'époque, j'étais enceinte et je me suis dit que c'était l'occasion, puisque ça faisait 2 ans que j'étais pas sortie du territoire, de venir passer quelques jours en France. C'est à mon retour à l'aéroport de Tel Aviv, le 5 janvier 2016, j'ai été arrêtée. Et au début, donc ils ont pris mon visa, ils ont mis des tampons, il y avait écrit « denied ». Voilà, c'était aussi simple que ça, en me disant « on vous accuse d'immigration illégale ». Ça, c'était la première excuse. Après, on m'a dit que j'étais un danger pour la sécurité de l'État d'Israël. Voilà. Donc, on m'a conduit en détention 3 jours. Et au bout de 3 jours, on m'a mis dans un avion pour rentrer en France. La détention en elle-même n'était pas agréable, parce que d'autant plus, j'étais enceinte. On me refusait l'accès à mes médicaments. La nourriture n'était pas adaptée. Mais bon, c'était 3 jours et... quand on est marié avec quelqu'un qu'à l'époque il avait fait plus de 8 ans de détention, qu'on rencontre des Palestiniens qui ont fait des années de détention, 3 jours, c'est rien du tout. Mais c'est pas la détention en elle-même qui était difficile, c'était les conséquences de cette détention. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai compris que j'allais pas pouvoir rentrer en Palestine. Ça, c'était la première chose. Que mon fils n'allait pas pouvoir naître à Jérusalem et donc il ne pouvait pas bénéficier de ce statut de Palestinien de Jérusalem puisque c'est un statut qu'on n'obtient pas par filiation, il faut être sur place. Surtout, je réalisais que, aussi bien moi, mais cet enfant à naître, on était utilisés pour faire pression sur mon mari. C'est-à-dire, ben maintenant, voilà, ta femme et ton fils, ils sont en France. À toi de faire un choix, quoi. Nous, idéalement, on aimerait vivre en famille à Jérusalem. C'est ce qu'on souhaitait faire avant de créer une famille. C'est notre droit. Salah est palestinien de Jérusalem, donc sa femme et ses enfants ont le droit de vivre avec lui à Jérusalem. Si Salah se pliait à leur chantage odieux, c'est une victoire pour eux parce qu'il perdrait son titre de résident à Jérusalem et puis il ne pourrait plus jamais y remettre les pieds, même pour aller voir sa famille. Il choisit de rester vivre là-bas et je le soutiens dans son choix parce qu'effectivement, c'est éminemment politique de céder ou de ne pas céder à ce genre de chantage. Et donc, il vient régulièrement en France pour nous voir, mon fils et moi. À chaque passage de la douane, il est mis sur le côté. Ses bagages et lui-même sont fouillés plus que les autres. Il est interrogé. On lui dit clairement à chacun des passages, que ce soit pour venir ici ou pour repartir, si tu vas vivre en France, on va te lâcher, mais tant que tu restes ici, tu vas souffrir. Mais il est plus fort que ça, donc il passe la frontière et puis le bonheur de se retrouver est plus grand que la contrainte de l'interrogatoire. Il devait nous rejoindre fin août 2017. Et une semaine avant, il a été arrêté.
Salah Hamouri a toujours estimé avoir été un prisonnier politique. Depuis sa libération en 2011, il l'affirme en toute occasion. Mais le 3 août dernier, il est retourné en prison. Motif, son appartenance présumée à une organisation interdite. Son épouse française dénonce un acharnement du gouvernement israélien.
Cette fois-ci, il y a eu une mise en détention administrative. Donc c'est une détention sans charge des jugements. Tout est basé sur un dossier qui est classé secret, donc ni l'accusé, entre guillemets, ni ses avocats ne peuvent accéder à ce dossier. Les autorités françaises, puisqu'il est citoyen français, ne peuvent pas non plus accéder à ce dossier. Il faut savoir qu'il avait été arrêté non seulement une semaine avant de venir nous rencontrer, nous visiter, mais c'était aussi 3 jours avant de prêter serment. Alors à l'époque, notre fils, il était petit, donc je ne lui avais pas expliqué tout ça. J'avais pendant 13 mois fait vivre son papa par des photos, on lui faisait des dessins, voilà. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est difficile. Mais Salah avait fait une interview quelques jours avant de se faire arrêter. Et il dit, bien sûr que ce n'est pas ce que j'aurais souhaité pour mes enfants, de vivre loin de moi, loin de leur patrie. D'essayer de construire une relation par téléphone interposé, c'est pas ça que je voulais, mais je veux qu'ils sachent que leur père il s'est battu.
Permettez-moi de remercier d'abord toutes les militantes et tous les militants des organisations qui composent le comité de soutien 13 à Salah Hamouri.
On remobilise et la mobilisation grandit au fil des mois, puisque je pense qu'à chaque détention, il est bien clair que c'est un acharnement politique.
Et nous sommes en ligne avec Salah Hamouri. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. D'abord, quel est votre état de santé après 13 mois de détention ?
Bonjour, merci pour vous déjà. Ça va après 13 mois, malgré la difficulté de la prison. Au niveau de la santé, ça va. J'ai tout fait pour garder un bon moral et une bonne santé en prison.
Il est libéré en septembre 2017, sans plus d'explications que pourquoi il avait été en détention. Il le libère. Alors, c'était une libération, comme à chaque fois, sous conditions. Donc, il avait une liste de personnes qu'il n'avait pas le droit de rencontrer. Une caution à payer et il n'avait pas le droit de faire une fête pour célébrer sa sortie. Donc une fois libéré, Salah prête serment. Donc il devient officiellement avocat. Ça c'était la première chose qu'il a fait. Et puis ensuite, eh bien, on reprend les allers-retours réguliers.
Aujourd'hui, Salah et Elsa ont encore des obstacles à franchir. C'est seul que Salah Amouri s'apprête à rentrer chez lui à Jérusalem-Est, laissant ici sa femme et son fils, toujours interdits d'accès en Israël.
Après de nombreux mois de fermeture de la frontière israélienne, Salah vient pour les vacances d'été. Enfin, il veut venir. Il a un billet d'avion. Et il est arrêté au moment où il va faire un test PCR. Il est dans un centre médical et il se fait arrêter. Et donc, ils l'ont gardé une semaine, sans motif, et clairement, pour lui faire louper son vol. Te réjouis pas trop d'aller passer des bons moments avec ta famille après quelques mois sans les avoir vus. Nous, on est toujours là. Donc il est libéré au bout d'une semaine et puis on achète un nouveau billet d'avion et il vient nous voir, on passe quelques semaines ensemble et il rentre en Palestine. Et en septembre 2020, il est convoqué pour un interrogatoire à Jérusalem. Il y va et là on lui remet un ordre militaire qui stipule que son titre de résident à Jérusalem est révoqué. Début 2022, après y avoir échappé, Salah a le Covid. Là, il découvre que son assurance maladie a été suspendue. À cette période-là, il n'a plus le droit non plus de passer un seul checkpoint. Donc, il n'avait plus non plus l'autorisation d'aller travailler, puisque toutes les prisons sont situées sur le territoire israélien. Les tribunaux, c'est pareil. Donc, il n'avait plus le droit de travailler. Pas le droit de circuler librement, pas le droit de se soigner, et du coup, il risque l'expulsion vers la France. Sauf que quelques jours avant qu'il ait cette mauvaise nouvelle, je lui avais annoncé une bonne nouvelle, c'est que j'étais enceinte de notre second enfant. Nous, on avait en tête une date à laquelle il fallait absolument qu'il soit en France pour la naissance. Et donc pendant toute la grossesse, on n'avait aucune certitude sur le fait qu'il puisse venir. Et il a obtenu une autorisation 2 jours avant la date du terme. Mais ça a été une grossesse de stress aussi bien pour lui que pour moi. Il imaginait que son second enfant allait naître sans lui. Donc après, il est rentré en Palestine quelques jours après la naissance. Et depuis, donc en mai, c'était en mai 2021 et on ne l'a pas revu depuis. En octobre 2021, l'ONG pour laquelle il travaillait est classée par Israël organisation terroriste, avec 5 autres ONG, qui sont donc toutes les 6, des ONG qui défendent les droits humains en Palestine et qui font un travail remarquable et qui sont reconnus à l'international. Et c'est clairement une démarche pour affaiblir la société civile palestinienne et les défenseurs des droits humains. Le 7 mars 2022, dans la nuit, les soldats israéliens sont venus. Ils ont explosé la porte de l'appartement. Salah s'est réveillé entouré de fusils et de soldats. Donc il venait pour l'arrêter.
Aujourd'hui, on s'est réunis avec les militants d'Amnesty France pour demander justice pour Salah Amouri. Salah Amouri, il est détenu depuis mars 2022 par les autorités israéliennes sans charge ni jugement. Le 5 juin dernier, les autorités israéliennes ont décidé de renouveler sa détention jusqu'en septembre 2022. On doit se battre pour demander sa libération immédiate. On doit aussi se battre pour qu'il ne soit pas expulsé de Jérusalem, sa ville natale. Enfin, on doit se battre pour que les droits de cet homme soient enfin respectés.
Cet arbitraire, il est insupportable et c'est pour ça qu'au fil des années, de plus en plus de militants, d'élus, de partis politiques, d'ONG dénoncent la détention et l'acharnement qui est perpétué contre Salah. Pour nous, c'est fondamental parce que ça permet aussi de toucher des gens qui ne seraient pas touchés par notre discours à nous. C'est-à-dire que moi, je suis la femme de Salah. Quand je vous dis mon mari vit une injustice, mon mari doit être libéré, vous pouvez toujours vous dire que je suis aveuglée par l'amour. Mais quand il y a des organisations comme Amnesty qui exigent aussi la libération de Salah, ça a un autre poids. Ce sont des organisations qui sont reconnues pour leur travail de défense des droits humains partout dans le monde. Et donc quand elle porte un combat sur une personne, ça crédibilise son combat. Pour nous, c'est fondamental.
Voilà, si c'est pas du harcèlement, on sait pas ce que c'est. Je vais vous parler juste quelques mots pour vous dire un petit peu les activités du groupe dinois d'Amnesty International. Nous allons participer à un forum le 11 octobre au Sacré-Cœur avec d'autres associations pour inciter les jeunes à s'engager. Nous avons donc notre foire aux livres les 14 et 15 octobre à l'Atrium. N'hésitez pas à venir. Si vous avez les livres à nous donner, vous pouvez les apporter. Tous les livres que nous avons, ce sont des dons de sympathisants. Et nous en avons beaucoup. Donc, si vous aimez lire, vous pouvez faire la provision pour l'hiver. Voilà, l'antenne jeune. On a une antenne jeune d'Amnesty au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Elle redémarre avec un jeune qui a pris le relais. Voilà, ils vont peut-être aller à un week-end des antennes jeunes le 22-23 octobre à Paris, au siège d'Amnesty France. Voilà, notre groupe se réunit le dernier mardi de chaque mois, donc ça sera le 25 octobre à partir de 17h. Si ça vous intéresse d'assister à une de nos réunions, appelez-moi au 06 81 34 18 83. 06 81 34 18 83. Vous verrez toutes nos activités. Par exemple, nous organisons au niveau régional un concours de nouvelles, d'écriture de nouvelles, écrire pour les droits humains, dans le cadre de Plume Rebelle. Voilà, donc pour l'instant, on démarche les professeurs qui pourraient être intéressés dans les établissements scolaires pour écrire ces nouvelles. Et puis, on a un dossier de prisonniers. Alors, c'est tout récent. C'est un dossier de prisonniers. C'est le groupe qui s'engage à défendre un prisonnier en particulier et essayer de tout faire pour obtenir sa libération. Alors, nous avons reçu comme dossier de Paris celui de Luis Manuel Otero Alcantara, qui est un Cubain. C'est un artiste qui a été condamné à 5 ans de prison pour avoir exercé pacifiquement sa liberté d'expression et son art. Donc on va voir un petit peu comment nous allons agir pour lui, peut-être avec des artistes de la région, pourquoi pas. Voilà, et voilà, on va terminer puisqu'on a dédié cette émission à la liberté d'expression, on va terminer par un chant. Bella Ciao, qui est un chant révolutionnaire italien bien connu, mais qui est chanté en persan par une iranienne, une femme iranienne. Voilà, ça conclut bien cette émission et nous vous retrouvons dans un mois.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi parim as khob. یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا، خاک این گندم تو خیابونه، خوشه ی خشم من و تو تشنه ی بارونه، حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست، دنیای تاره این یه آغازه، پنجره تا رویا بازه، از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو.